Jean Misrahi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Imagis. On va revenir avec vous sur vos résultats semestriels et puis sur les perspectives des spécialistes des technologies numériques hein, pour l'industrie du cinéma.
Oui.
Comment s'est passé pour vous ce premier semestre?
Écoutez, le premier semestre pour nous, c'est un semestre assez important puisque il fait suite à l'acquisition de fait d'une majorité dans l'activité de Smartjog via la constitution d'une filiale commune avec le groupe TDF. On y a beaucoup investi pendant ce semestre, à la fois en termes de ressources humaines, de développement informatique, de R&D, mais également d'investissement physique, puisque au mois d'avril, cette filiale a acquis un réseau qui se trouve en Grande-Bretagne, donc a étendu son implantation au niveau européen, si bien qu'aujourd'hui, on a une entité qui est devenue la première au niveau européen. De très très loin, même la première au niveau mondial, qui fait que sont en train de se cristalliser un certain nombre de discussions avec des clients potentiels pour ce réseau, qui fait qu'on pense aujourd'hui que notre pari est gagné sur cette partie-là. Donc on va dire que c'est un semestre et probablement une année de transition pour cette branche d'activité, qui est pour nous tout à fait stratégique pour l'avenir de la société. Donc on pense qu'on a aujourd'hui réussi cette transition finalement dans un délai assez court.
La croissance reste effectivement forte. Alors, il y a eu aussi une augmentation des charges. C'était logique sur ce semestre.
L'essentiel de l'augmentation des charges est lié à cette opération de croissance externe et de développement de la filiale d'acheminement de contenu par voie électronique, qui est pour nous un nouveau métier. C'est un métier dans lequel on n'était pas l'année dernière. C'est en train de devenir un de nos métiers importants et fondamentaux. C'est un métier de coût fixe, c'est-à-dire qu'on a notamment un des coûts fixes les plus importants, c'est l'allocation des transpondeurs satellites. Nous avons deux transpondeurs satellites sur Intelsat 905. Ce sont des coûts assez importants. Il est évident que pour nous maintenant, l'enjeu, c'est de remplir ces transpondeurs, de faire en sorte que le chiffre d'affaires croissant, la période d'investissement soit rendue très rentable et on a bon espoir d'y parvenir.
Alors, il y a eu un événement, on n'aurait peut-être pas pensé d'emblée que ça avait pu avoir un impact sur vous, c'est la Coupe du Monde. Ça a créé un impact en termes d'activité, cette Coupe du Monde.
C'est un impact conjoncturel, hein, purement conjoncturel, qui est lié au fait qu'au mois de juin, les distributeurs de films, les gens qui fournissent les contenus au cinéma, ont considéré, à tort ou à raison, c'est leur problème, que mettre un film qui a un peu de valeur à ce moment-là, ce n'est pas forcément un bon calcul économique. Donc, si bien que quand vous regardez les sorties de films au mois de juin, il n'y a pas grand-chose. Ce ne sont pas des films qui ont un potentiel commercial important. Du coup, on a surtout vu des films qui étaient déjà en place avant continuer leur carrière. Donc, toute notre activité VPF, du coup, on a subi les conséquences. De même que l'activité d'acheminement, puisque quand il n'y a pas de copie mise en place dans les cinémas, il y a moins de trafic. Aujourd'hui, on est revenu à la normale. Ça arrive une fois tous les 4 ans. Bon, il faut s'y faire. Paradoxalement, les Jeux Olympiques ont un impact beaucoup moins important que la Coupe du Monde. Visiblement, la clientèle des cinémas correspond plus à la clientèle du football.
Voilà, c'est une forme d'apprentissage, on peut dire, sur ce type de réaction. Sur la situation financière d'Imagine, vous aviez fait une augmentation de capital à l'issue de ce premier semestre. Quelle est-elle?
Alors, la situation financière est extrêmement saine, hein, puisqu'on a une trésorerie qui, à la fin du semestre, est pas loin de 17 millions d'euros, qui correspond grosso modo à l'argent qu'on a levé entre l'introduction en bourse l'année dernière et le placement privé du début de cette année, voire même un peu plus. Alors qu'entre-temps, on a quand même fait des acquisitions. Donc ça montre que le groupe génère du cash. C'est cette situation assez saine qui nous permet aujourd'hui de rentrer dans une nouvelle phase, de réaliser une acquisition qui, alors cette fois-ci, a une envergure, une importance stratégique beaucoup plus grande, puisqu'on devrait finaliser au cours du mois d'octobre l'acquisition du groupe Décinex, qui est notre principal concurrent en Europe, qui a une taille en termes de chiffre d'affaires deux fois plus importante que la nôtre. Qui a une histoire qui est assez similaire, si ce n'est que nous sommes plutôt une entreprise issue de l'entrepreneuriat et des Cinex est issue du monde, on va dire, c'est un spin-off du groupe EVS. Donc des histoires qui, en fait, au plan historique, sont assez parallèles. On a les mêmes activités, si bien qu'aujourd'hui, il y a une correspondance assez forte entre nos différentes activités, qui fait qu'on va pouvoir réaliser assez rapidement des synergies.
Et ça pourrait avoir un impact sur la rentabilité,
malgré tout ? Ça aura nécessairement un impact sur la rentabilité. Il est évident qu'à court terme, on va prendre des mesures qui auront peut-être des coûts, parce que rationaliser certaines dépenses, parfois, ça conduit à enregistrer des coûts immédiatement. Mais on a déjà commencé à travailler sur les économies, mais pas seulement les économies, également le surplus de chiffre d'affaires qu'on peut espérer. Et c'est assez significatif, c'est très significatif. Si bien que l'agrégation de ces deux chiffres d'affaires et de ces deux activités va pouvoir permettre de générer, on estime, un minimum à terme de 4 millions d'euros aujourd'hui. On a mis en place déjà depuis le mois mois d'août des groupes de travail entre les deux structures pour sur chaque sujet un peu significatif travailler à identifier les synergies, préparer un plan de valorisation de ces synergies. Donc on a déjà anticipé, alors qu'on n'est pas encore dans la phase de complétion de l'acquisition, on est déjà en train de travailler à préparer notre prochain exercice.
Voilà, donc ça veut dire clairement que vous serez, si vous ne l'êtes pas déjà, mais vous serez incontournable à partir de ce moment-là, à partir de la réalisation de cette opération en Europe.
Il est clair qu'on sera incontournable. On sera de très très loin le numéro un européen. On a un énorme avantage, c'est qu'on aura un portefeuille d'activités relativement équilibré, diversifié, avec les solutions de financement d'un côté qui représenteront moins de la moitié du chiffre d'affaires, mais une source de rentabilité très stable sur les années qui viennent, des activités de service aux exploitants très importantes, qui finalement arrivent au bon moment, puisque le marché va redémarrer à partir de 2015-2016, que Décinex a une forte implantation dans l'Europe de l'Est, qui est un marché qui, au plan cyclique, est plutôt dans une phase d'expansion, donc qui est également vient au bon moment de manière de façon à assurer une stabilité de l'activité. Et puis notre activité de contenu va se consolider, puisque Décinex est actionnaire de notre dernier concurrent pan-européen en termes d'acheminement électronique de contenu, si bien qu'aujourd'hui on va constituer un acteur qui va être un acteur qui va être le seul acteur au plan des acheminements par satellite. On aura des concurrents par acheminement terrestre, ADSL, fibre, mais l'ADSL en Europe n'est pas encore développée partout, si bien qu'aujourd'hui, on sera le seul à pouvoir vraiment, à court terme, offrir une présence européenne complète. Et on commence déjà à le sentir, puisqu'on a déjà des clients qui sont entrés en discussion avec nous. On a même des concurrents qui souhaiteraient travailler avec nous pour utiliser nos capacités. Donc c'est assez bon signe sur la tendance de notre activité.
En conclusion, vous diriez que finalement cette numérisation qui s'est finalement installée assez rapidement de ces salles de cinéma en a sauvé beaucoup d'entre elles et amène de nouvelles possibilités pour ces salles ?
Eh bien écoutez, on a un double effet. En fait, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'avec la numérisation, un certain nombre de salles disparaissent, qu'elle pourrait pas assumer la transition. En France, on est un cas un peu particulier. L'État, a fait un gros chèque pour que toutes les salles puissent passer. Mais dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas. Et on se rend compte qu'en réalité, un peu partout en Europe, même les salles les plus petites, alors sauf vraiment des salles qui ont une activité très marginale, mais sont passées au numérique. Elles ont trouvé le moyen de passer au numérique. Même aux États-Unis, où on est sur un marché où il n'y a pas du tout d'intervention étatique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de salles qui sont passées. La très grande majorité des salles sont passées. Il n'y a que des marchés qui sont, pour des raisons là conjoncturelles, qui sont affectés par une baisse de la fréquentation, l'Espagne par exemple, où là il y a des salles qui ont fermé, mais ce n'est pas vraiment la numérisation qui a causé ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le numérique dans les cinémas, en réalité, ça ouvre des nouvelles opportunités. Et on voit chez nos clients, nos clients avec lesquels on travaille pour le VPF, c'est que beaucoup d'entre eux aujourd'hui ont des plans qui consistent soit à élargir leur cinéma, donc à rajouter des salles à un cinéma existant, et il y a beaucoup de plans de cette nature, soit carrément à créer des nouveaux cinémas. On voit des projets en France, en Allemagne notamment, qui sont des projets importants. L'année dernière, en France, ça a été 200 nouvelles salles qui ont été créées, qui ont remplacé partiellement des salles qui ont fermé. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai mouvement de modernisation et de création de l'activité dans ce secteur.
Merci Jean Miseraye d'avoir été avec nous.